La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez chaque jour, vous montrer que la France bouge et que c'est vous qui la faites bouger. Aujourd'hui, gros plan sur notre alimentation, celle de demain. Aurons-nous des insectes dans nos assiettes? Une partie de la population mondiale s'y est déjà mise. Et chez nous, en France, des entrepreneurs commencent à développer la filière. Il met, lui, de la douceur dans notre quotidien et éveille nos papilles à des saveurs inattendues. Pierre Hermé est aujourd'hui l'entreprise qui va bien, merci. Et si l'on faisait une bonne action plutôt qu'un cadeau, c'est Gandhi et c'est la solution pour plus de générosité dans notre vie. C'est ça, la France qui bouge, et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
On va vous surprendre aujourd'hui parce que nous allons nous mettre à table, mais ce sont des insectes que nous allons tenter de déguster. Paul Lassène est là aujourd'hui. Bonjour Paul.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Vous allez voir qu'il a déniché toutes les informations qui nous manquent sur la question. Et notre coach aujourd'hui, c'est Guillaume Quéroux. Bonjour Guillaume.
Bonjour Raphaël.
Président du Club des entrepreneurs et président fondateur de Didaxis. Alors, à la question, comment allons-nous nourrir la planète demain? Personne n'a véritablement la réponse. Ce qui est certain, c'est que la population mondiale augmente et que les ressources, elles, vont s'avérer insuffisantes. Alors, certains pays ont déjà commencé à commercialiser des insectes parce que, selon la FAO, cette piste peut permettre de nourrir 9 milliards, oui, vous avez bien entendu, 9 milliards d'habitants en 2050. C'est, en quelque sorte, en partant de ce constat qu'InnovaFeed a été créé. Bonjour Guillaume Gras.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le directeur général d'InnovaFeed et vous avez monté votre entreprise en 2016, en partant du principe qu'en Asie ou en Afrique, hein, tout simplement, on en mange des insectes depuis des siècles. Nous, en revanche, on est un peu plus réticents, pour l'instant en tout cas.
Exactement, et donc c'est pour cette raison que nous avons choisi de dédier notre protéine d'insectes aux poissons d'élevage, tout simplement parce que si vous pensez aux truites et aux saumons, ils en consomment naturellement.
Donc, oui, vous avez dit on n'est pas prêts, nous, Européens, pour l'instant, à manger des insectes. En revanche, on va peut-être commencer par les donner à manger aux poissons.
Exactement. Donc, je pense que pour l'alimentation humaine, on y viendra et je laisse les autres invités en parler. En ce qui nous concerne, on s'est dit, bah, effectivement, la technique de la pêche à la mouche, c'est pas pour rien. C'est parce que ça fait partie de leur régime naturel. Et en donnant des protéines d'insectes, que ce soit aux truites ou aux saumons, on a la ferme conviction de faire du biomimétisme et donc de recréer ce qu'ils mangent à l'état naturel.
Alors, quel type d'insectes est-ce que vous avez commencé à élever? Vous avez parlé de la pêche à la mouche.
Oui, bah, c'est justement une mouche. Donc, on est cohérent là-dessus. C'est une mouche qui s'appelle Hermesia illucens, qu'on a choisie parce qu'elle est complètement inoffensive, déjà présente en Europe. Elle a des propriétés nutritionnelles qui sont excellentes. Et surtout, on peut l'élever sans avoir recours à des nouvelles ressources naturelles, ce qui est l'importance pour le développement durable.
Dites-moi, où est-ce que vous avez commencé votre aventure?
Alors, bon, l'aventure, elle commence dans un micro-studio à Paris, dans une salle de bain où on a...
Vous avez commencé à élever des mouches dans une salle de bain.
Il a fallu apprendre, voilà, on n'avait pas de locaux. Et puis, au fur et à mesure, l'équipe s'est agrandie, donc de 4, maintenant on est 40. On a une première unité de production dans le nord de la France, près de Cambrai. Et on est en train d'en construire une deuxième. Donc à Nesle, dans la Somme, avec une capacité de 10 000 tonnes par an.
Dans cette unité, dans cette première unité, vous élevez combien de mouches, de larves, hein, parce que ce sont les larves en fait que vous utilisez.
Alors tout à fait, si vous venez chez nous, dans notre usine, vous verrez qu'en fait il y a très peu de mouches qui volent, c'est essentiellement des larves, parce que c'est ce stade de l'insecte qui est le plus intéressant nutritionnellement parlant.
Et donc aujourd'hui, on fait une tonne par jour. C'est à ce moment-là qu'il y a le plus de protéines.
Oui, et en fait, le développement est aussi le plus rapide au stade larvaire. Donc, c'est pour nous le plus intéressant.
Et donc, combien de larves?
Alors, je ne pourrais pas vous dire exactement en larves.
Vous n'avez pas compté avant de venir.
Ça fait à peu près une tonne par jour de protéines d'insectes, donc secs. Ce qui est déjà la plus grosse capacité de production en Europe.
Paul, on voit que le marché est en train de se développer en France. Dans certains pays, notamment en Asie, c'est carrément une tradition.
Oui, dans plus d'une centaine de pays, la consommation d'insectes, c'est une coutume, vous l'avez dit, notamment en Asie, et en Asie du Sud-Est particulièrement. Et les champions du monde, toutes catégories, ce sont les Thaïlandais. Donc dans les petites échoppes de rue où vous trouvez des pâtes thaï, des soupes traditionnelles, vous trouvez aussi des sauterelles grillées, du riz sauté au verre de bambou ou des punaises d'eau géantes frites. Plus largement, les Thaïlandais sont les premiers producteurs d'insectes comestibles au monde. 200 espèces différentes élevées dans plus de 20 000 fermes à travers le pays et une production d'environ 7 500 tonnes par an. Très gros producteurs donc, mais aussi gros consommateurs puisque ce sont les premiers mangeurs d'insectes dans le monde.
20 000 fermes à travers le pays. Nous, ici en France, elles se comptent sur les doigts d'une main, les fermes.
Alors, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées, mais ça, c'est bien
certaines inférieur
n'ont
pas
à 20
000. Oui.
Nous, notre ambition, c'est de construire 5 sites dans les 5 prochaines années. Donc, ça va se développer. Ce sont des sites un peu plus conséquents. Mais effectivement, on est en plein boom. On vient de sécuriser 40 millions d'euros de financement, dont l'intérêt, c'est effectivement de déployer notre modèle et de recruter.
Que dit notre coach, Guillaume Kiron?
Non, mais c'est vrai qu'on apprend tous les jours. Moi, j'avais effectivement, je suis grand adepte de la Chine. Donc, c'est vrai que ces insectes, j'en avais déjà goûté.
Oui.
Maintenant, c'est vrai qu'on voit que les applications sont très, très diversifiées. Moi, avec ma petite casquette export, quand même, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a. Parce que j'ai vu que vous aviez quand même levé 40 millions d'euros, ce qui est pas rien pour une start-up qui se lance sur un métier de niche comme le vôtre. Est-ce qu'il y a vous avez des pays cibles qui sont dans votre collimateur, qui sont intéressants, qui sont peut-être plus près culturellement pour des applications peut-être autres que celles que vous développez en France?
Alors, bon déjà, le marché de niche, on parle du marché de la protéine mondiale, donc c'est tout de suite des millions de tonnes. Nous, aujourd'hui, on a commencé par nourrir des truites, parce que c'est ce qu'on élève en France. Mais demain, effectivement, les applications, c'est d'aller sur le saumon. On peut penser à la Norvège, l'Écosse, tous ces grands producteurs de saumon, et qui aussi, à l'état naturel, consomment des insectes.
Et je précise que Auchan s'engage en ce moment pour une aquaculture naturelle et durable. Elle devient cette filière Auchan le tout premier distributeur à lancer une filière de truites justement nourries à l'insecte. Ça va se passer notamment dans les magasins du Nord et de l'Île-de-France et ça a vocation en théorie à s'étendre partout en France d'ici la fin 2019. Comme quoi effectivement il y a un véritable marché. Alors de niche ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas c'est en plein développement.
Il est 13h08.
On reste ensemble, bien sûr, et on va s'intéresser à l'endroit où termine cette matière première, dans les croquettes, par exemple, de nos chats et de nos chiens. C'est ce que fait Antomojo, qui fabrique de la nourriture à base d'insectes pour nos compagnons à quatre pattes. À tout de suite. Deux jeunes femmes pour nourrir les chats, les chiens, leur apporter des protéines, mais aussi des insectes à base d'insectes. Bonjour Madeleine Morlet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez fondé Antomojo, c'était en novembre 2017. Vous avez, je crois, pendant vos études, découvert l'importance nutritionnelle, on en parlait, de ces insectes. Vous avez du coup décidé de postuler au programme Ticket for Change.
Ouais, voilà, exactement. En fait, avec Paola, ma cofondatrice, on a toutes les deux fait le même master à Londres en développement durable. Et on nous a énormément parlé des protéines alternatives et des insectes notamment. Et c'est vrai que moi, je fais très attention à mon alimentation en termes d'impact sur l'environnement. Et donc, quand j'ai eu cette idée de croquettes aux insectes pour mon chien, pour réduire son impact sur l'environnement quand c'est un gros chien de 50 kilos qui mange énormément, on a tout de suite eu l'idée de postuler au concours des Ticket for Change. Et c'est à la suite de ces 6 mois où on s'est dit, pourquoi pas nous? Enfin, on a arrêté nos travaux respectifs et on s'est dit, on va se lancer dans...
Donc vous rentrez, vous quittez Londres, vous rentrez en France. Ouais. Alors, racontez-moi, vous faites comment pour concevoir les croquettes? Ça n'existait pas en France, il n'y avait pas d'équivalent. Donc vous allez chercher à quel endroit la base, la farine d'insectes?
En fait, on a commencé par commander de la protéine d'insectes sur Internet et on a fait nous-mêmes une petite recette qu'on est allé vendre, on a fait tester à des chiens au bois de Boulogne.
Oui.
Et suite à ça, on a vu que les chiens appréciaient vraiment le goût. Et donc du coup, on a fait un travail de sourcing et on est allé voir un producteur de farine d'insectes en Hollande. On a visité la ferme, on est ensuite allé visiter un fabricant de croquettes qui était aussi en Hollande. Et c'est de là où on a décidé de travailler ensemble et de commander des croquettes.
Et c'est comme ça que sont nées ces croquettes, hein, Entomojo, la croquette écologique, sans sous-produits de viande, sans céréales, protéines d'insectes. Votre chien vous dit merci, la planète aussi, c'est ça votre logo. Vous avez élaboré du coup votre propre recette ?
Ouais, en fait, on a fait un partenariat avec l'AgroParisTech. Donc il y avait un chercheur, Samir Mesdour, qui nous a bien aidés et une chercheuse en fait, d'études à l'agro qui a travaillé sur l'aspect formulation. Et on a aussi été conseillé par un vétérinaire spécialisé en nutrition animale qui était assez difficile à trouver parce que tous les vétérinaires ne s'y connaissent pas en formulation. Et donc pour bien être au point en termes de données nutritives pour le chien.
Alors, vous allez tester une nouvelle recette, ce sera complètement made in France cette fois-ci, et vous allez vous fournir justement chez InnovaFeed.
Oui, exactement. On a, pour les croquettes, on utilise la BASF, et donc on a fait un travail de sourcing et on est allé se fournir chez InnovaFeed. Et on lance aussi des friandises en mars avec un grand distributeur. Et là, pour le coup, ce sera des ténébrios. Et donc, on s'est aussi fourni chez un fournisseur en France.
Anissa, oui. Pendant ce temps, a ouvert le paquet de croquettes.
Ah, j'ai pas mangé. Hein.
C'est bien, Anissa. Ça sent. Alors, vous nous avez dit que ça sentait moins mauvais qu'une croquette normale.
Ah,
c'est
ça
vrai.
Sent pas du tout mauvais, les croquettes. Elles sont très mauvaises d'habitude, les croquettes pour chien. Là, ça sent un petit peu la nourriture pour poisson. Vous savez, c'est très léger.
Ouais, et en fait, Paola et moi, on goûte tout ce qu'on fabrique. Donc
vous avez goûté.
Ouais, on a goûté.
Bon, vous voulez pas si je goûte pas tout de suite. Hein.
Non. Un petit arrière-goût.
Je vais passer.
Pas très sympathique, mais les friandises, franchement, hyper bonnes. Goût romarin cassis.
Et vous en avez vendu combien pour l'instant ?
Pour l'instant, on a vendu 2,5 tonnes de cette recette. Et on prévoit une production d'à peu près 30 tonnes pour l'année prochaine.
Alors, je me tourne vers vous, Paul. Pour vendre des insectes, cette fois-ci comestibles, hein, pas pour les animaux, mais pour nous, tout n'est pas forcément très simple. Parce que là, vous avez parlé de la Hollande, on est en France, donc ça change pas mal la donne.
Oui, alors, pour la France, tout se joue au niveau européen, puisqu'officiellement, la législation française, elle ne permet pas de vendre des insectes comestibles. Vous ne trouvez pas de vers à côté de vos steaks dans une boucherie, notamment pour des raisons de santé publique, puisque l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation française ne considère pas encore sans risque pour l'homme la consommation d'insectes. C'est donc à l'échelon au-dessus que tout se joue, et même dans l'Union européenne, tout n'est pas si simple. Malgré tout, le 1er janvier, les insectes ont été considérés comme des novel food en Europe, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme des aliments, ce qui n'était pas encore le cas. Cette nouvelle réglementation permet donc aux entreprises de présenter des demandes d'autorisation de mise sur le marché à la Commission européenne.
Madeleine, pour l'instant, on est dans quelque chose qui est embryonnaire, hein, on peut le dire. Ça va se développer forcément, compte tenu de ce que vient de nous expliquer Paul. Vous avez commencé à commercialiser. Vous avez un objectif, vous êtes fixé une barre, vous, dans votre tête ?
Oui, bah en fait, on a pour objectif de 1. Segmenter notre offre l'année prochaine, donc faire des chiens, des croquettes plus petites pour des chiens plus petits ou des croquettes plus grandes, et aussi les chats, parce qu'on a énormément de demandes pour les chats. Et notre objectif, c'est de nourrir à peu près 3000 chiens et 3000 chats l'année prochaine.
Que dit le coach ?
Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours l'environnement un peu du créateur. Comment, dans votre environnement familial, qui a souvent un impact sur l'entrepreneur, comment s'est reçu ce type de concept que vous développez ? C'est quoi les retours les plus farfelus qui vous sont faits ?
Alors, je suis à moitié anglaise, à moitié française, donc les retours sont différents. Dans ma famille anglaise, j'ai une tante végétarienne, enfin ils sont assez... mon père voyage beaucoup en Afrique, donc il a déjà mangé des insectes, donc aucun problème. En revanche, du côté français, on vient du sud-ouest, on adore le magret de canard.
Oula. D'accord.
Mais non, enfin, franchement, mais je dis ça, mais mes oncles qui sont notamment dans l'agroalimentaire, ils sont vraiment, enfin, ils pensent que c'est le futur.
Dites-moi, on n'a pas parlé du prix. Ça coûte cher une croquette, c'est plus cher, moins cher qu'une croquette classique.
En fait, on se situe à peu près en termes de prix des croquettes qui sont naturelles, bio. Donc c'est milieu marché, je dirais. C'est moins cher que des croquettes qui se retrouvent chez les vétérinaires, mais plus cher que des croquettes bas de gamme.
C'est-à-dire à peu près
7-6 euros le kilo.
On reste ensemble, on continue à parler des insectes dans notre alimentation aujourd'hui et demain.
Il est 13h19. Europe 1.
Et si vous arrivez dans notre assiette directement, c'est le travail de persuasion que fait aujourd'hui Fruits de Terre pour changer le regard des Français. Il y a du boulot.
Demain, que mangerons-nous demain? Les insectes semblent avoir le vent en poupe et être une solution. On en parle dans la France Bouge sur Europe 1 avec toujours Raphaël Duchemin.
Toujours avec notre coach, c'est Guillaume Quéroux aujourd'hui, avec Paul Lassène qui m'accompagne. Alors c'est vrai que si on ne trouve pas de solution durable hein, pour se nourrir d'ici 30 ans, nous n'aurons plus de quoi finalement donner à manger à toute la planète. Alors il va bien falloir trouver de nouveaux aliments. Et ces aliments, ce sont peut-être ce qu'on appelle aujourd'hui les fruits de terre. Bonjour Charlotte Alix.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. C'est comme ça que je crois que vous avez décidé de rebaptiser les insectes. Parce que vous dites, on mange des fruits de mer. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas pareil finalement avec les fruits de terre?
Exactement. Les insectes aujourd'hui ont une image assez négative en France. Et on s'est rendu compte que dans notre vocabulaire au quotidien, on ne parlait pas de mollusques ni de crustacés au restaurant. On parle de plateaux de fruits de mer. C'est plus gourmand, plus terroir. Et donc nous, on a fait la même chose et on appelle les insectes comestibles les fruits de terre.
Oui, ça veut dire qu'il y a une barrière psychologique à passer et que le fruit de terre plutôt que l'insecte, c'est plus simple quand on arrive avec l'assiette.
Oui, tout à fait. Et on a effectivement une barrière psychologique en France parce que ça ne fait pas partie de notre alimentation. Mais nous, on réduit les insectes en farine et de cette manière, on ne les voit pas dans nos produits. Et on a une barrière psychologique qui est moins importante et les clients aujourd'hui goûtent plus facilement nos produits.
Alors, votre ambition, c'est de devenir d'ici 3 ans le leader des alternatives à la viande avec les fameuses farines d'insectes. Mm-hmm. Ce sont des farines de quoi?
Alors, c'est du ténébrion molitor.
On avait des mouches tout à l'heure, c'est pas des mouches?
Non, c'est bon. Pas des mouches. Nous, on utilise donc une espèce qui s'appelle le ténébrion molitor.
C'est une sorte de petit ver?
Exactement, des petits vers de farine qui sont français, nourris au bio. Et nous, on les reçoit dans notre atelier de production à Lyon, déshydratés. On les réduit en farine et on les incorpore dans notre recette.
Du coup, vous avez élaboré ce qui ressemble à des steaks à base de farine de ténébrion. Vous avez ajouté des choses, des aromates, des épices?
Oui, tout à fait. On a une base de légumineuses à chaque fois. Donc, on utilise le pois chiche, la haricot rouge ou les lentilles corail. Tout est français et bio. On ajoute notre farine d'insectes, des épices et des aromates. Et ce sont des recettes qu'on a élaborées avec l'Institut Paul Bocuse parce que c'est important d'avoir un équilibre des saveurs et que ça soit gourmand pour les consommateurs aujourd'hui. Et on a également 3 formats. Donc nous, on ne parle plus de steak. C'est quelque chose de
comparatif. Parce que le steak, c'est en rapport à la viande.
Exactement. Pareil pour les galettes, on pense tout de suite à des galettes végétales. Nous, on a voulu se différencier de ce qui existait aujourd'hui. Donc on appelle nos produits des palétins. Ça a la même forme qu'un steak, même utilisation à la poêle. Mais on appelle ça un palétin. Donc on a ce format de 115 grammes, un plus petit format de 30 grammes et on a également des boulettes. Donc c'est quelque chose que vous pouvez incorporer dans votre alimentation au quotidien. Faire des spaghettis bolognaises, un hachis parmentier, des tartines, des burgers. C'est vraiment très simple d'utilisation.
Et alors quel goût ça a?
Et ben c'est très bon.
Un petit goût de noisette paraît-il.
C'est un petit goût de noisette et de fruits à coque. Voilà, exactement.
Il y a plusieurs recettes aujourd'hui, 3 recettes je crois.
Oui,
c'est ça?
Tout à fait. À base de, du coup, à chaque fois de légumineuses. Donc on a pois chiche, auquel on a rajouté certaines épices, le lentille corail, auquel on a rajouté de la carotte, du cumin, etc. Et haricot rouge, où là on a mis un peu plus du piment, c'est plus de style mexicaine.
Paul, parmi les entreprises qui font déguster des insectes aux Français, il y en a une autre hein, qui tire particulièrement bien son épingle du jeu, c'est Jiminy.
Oui, Jiminy en référence à Jiminy Cricket, hein, la conscience de Pinocchio dans le dessin animé de Disney. Alors c'est une société qui a vu le jour en 2012. Depuis, ça cartonne, 350 points de vente ouverts, plus d'1 million de gourmands déjà séduits. Alors les insectes sont élevés aux Pays-Bas et cuisinés dans un atelier en région parisienne. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils nous donnent envie. Écoutez, des grillons aux oignons fumés à la sauce barbecue ou des criquettes au paprika pour l'apéritif pour environ 7 euros. Pour ceux qui préfèrent cuisiner eux-mêmes, vous pouvez même commander un pack cuistot avec des grillons et des verres à préparer vous-même. Ça a l'air de vous ravir, Raphaël.
Oui.
Des pâtes à la poudre d'insectes et tout ça sans colorant artificiel ni conservateur. Et si vous voulez un réveillon de Noël original,
je vous écoute.
Plutôt que des chocolats, Jiminy vous propose des recettes spéciales, des verres chocolat vanille, des grillons aux fruits rouges ou des verres au caramel au beurre salé.
Vous n'êtes pas du tout dans cette optique-là. Vous dites, il y a 2 approches finalement, hein, Charlotte. Il y a ceux qui disent, allez, chiche, lancez-vous goûter. Vous vous dites, on va essayer plutôt la méthode douce pour essayer de faire passer et d'habituer les Français.
Oui, exactement. On n'est pas du tout sur le même positionnement. Jiminy sont plutôt sur est-ce que vous êtes capable ou pas capable de manger des insectes. C'est quelque chose qu'on apporte dans un apéritif autour des amis. Nous, on est sur une démarche un peu plus durable pour être une alternative à la viande et limiter l'impact environnemental de notre alimentation. Et on se rend compte aujourd'hui quand on fait des dégustations dans des salons, notamment, les personnes sont plus réceptives à nos produits parce qu'on ne voit pas l'insecte, tout simplement. Il n'y a pas cette barrière, ce petit jeu, est-ce que vous êtes capable ou pas capable d'en manger ?
Anissa ? J'ai une question pour les gens qui sont allergiques aux fruits à coque ou à d'autres choses. Est-ce que ces farines-là ont été testées ? Est-ce qu'on sait s'il y a des produits allergènes dans ces farines à base d'insectes ?
C'est en cours, mais effectivement, les insectes sont déconseillés aux personnes qui sont allergiques aux crustacés.
Le coach, il dit quoi ?
Non, mais le plateau est intéressant parce qu'on retrouve les différents usages qu'on peut faire avec ces insectes en consommation directe, indirecte et annexe auprès des animaux. Moi, j'ai toujours un intérêt pour savoir un peu les trajectoires de nos entrepreneurs, savoir un peu, j'ai plusieurs questions sur, un, comment t'es venue l'idée à travers ta formation ? J'imagine que ça vient souvent de la formation.
Des voyages.
Voilà,
surtout.
Des voyages. Mm-hmm. Et deux, on sent qu'il y a une approche très pédagogique. D'où vient ces compétences, ces aptitudes sur justement la promotion de ces nouveaux usages alimentaires. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a une fibre pédagogique derrière tout ça.
Ce que je vous propose, c'est qu'on marque une pause et qu'on ait la réponse de Charlotte dans un instant sur Europe 1.
Il est 13h30.
Europe 1.
Et vous venez bien sûr nous rejoindre et poser toutes vos questions à nos invités. On vous attend, 3921 et Twitter bien sûr. À tout de suite.
Tous les jours de 13h à 14h, vous écoutez La France Bouge sur Europe 1. Gros plan aujourd'hui sur notre alimentation, celle de demain. Aurons-nous des insectes dans nos assiettes ? On va continuer d'en parler avec Raphaël Duchemin.
Paul Lassen est avec nous, Guillaume Quairot est notre coach aujourd'hui. Les insectes, l'aliment de demain avec Guillaume Gras, directeur général d'InnovaFeed, Madeleine Morlet, cofondatrice d'Entomojo et Charlotte Alix, cofondatrice de Fruits de Terre. Il y avait une question et il y avait une réponse qu'on attendait posée par Guillaume Quairot.
Oui, alors du coup, la question, c'était comment faire intégrer au final les insectes dans notre alimentation aujourd'hui.
Oui.
Alors tout simplement, nous, on a mis en place cette démarche où on change le nom avec les fruits de terre, on réduit en farine les insectes, comme ça ils sont invisibles pour le consommateur. Et ça passe aussi par un aspect pédagogique. Aujourd'hui, les insectes ne font pas partie de notre alimentation, on en est conscient. C'est pour ça qu'on explique à chaque fois notre projet, notre concept, les ingrédients de notre produit, d'où viennent les ingrédients. Dans tous nos produits, nous n'avons aucun conservateur, aucun arôme artificiel, aucun additif, rien de tout ça. Tout est 100% naturel, d'origine biologique au maximum et français. Ça, c'est le plus important. Et on explique aux consommateurs, eh bien voilà, quand vous consommez un steak de bœuf, vous consommez 15 000 litres d'eau. Alors que quand vous consommez un steak, un kilo de protéines d'insectes, voilà, c'est 100 fois moins, ça pollue moins, ça demande moins de ressources naturelles à produire. Et ça, on est obligé de l'expliquer à chaque fois.
Alors justement, ça tombe bien parce qu'on a Anthony qui nous a appelé au 3921 et qui est un petit peu, vous allez voir, sur la même ligne. Bonjour Anthony.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour. Alors, quelle est votre question Anthony ?
Oui, alors moi j'ai fait le comparatif en termes de production par rapport à la viande de bœuf.
Oui.
On sait qu'il faut 15 millilitres d'eau pour faire un kilo de viande de bœuf et des surfaces de fourrage énormes. Alors, comment est-ce qu'on peut comparer pour produire les insectes en termes de consommation d'eau et de fourrage ? J'aimerais savoir un petit peu comment ça se passe psychologiquement parlant. Et je serais aussi intéressée par la jeune dame qui est là, qui produit les croquettes pour chiens.
Oui, Madeleine Morlet, d'Entomojo.
Sa marque m'intéresse beaucoup, donc si on peut avoir ça hors antenne, ça m'intéresserait beaucoup.
Bah évidemment, on va tout vous dire. Qui veut répondre à Anthony ?
Moi, je peux répondre si vous voulez.
Oui,
vous
alors Charlotte ou Guillaume, comme vous voulez.
Il y a un rapport qui est sorti de l'ONU, de la FAO exactement, qui est la branche agroalimentaire de l'ONU, qui explique justement toute la consommation de ressources naturelles pour un comparatif entre les steaks de bœuf, le poulet, etc. et les insectes. Donc, vous pouvez aller voir sur le site internet et télécharger ce rapport-là. Il y a tous les détails. Et voilà, principalement, c'est comme ça.
Mmh. Guillaume Gras.
Nous, on a regardé sur la consommation de CO2 et on s'est comparé aux protéines végétales et on a démontré par une analyse de cycle de vie qu'en fait, la production de CO2 était 3 fois moindre avec nos insectes.
Ça répond à votre question, Anthony ?
Ah, complètement, oui.
Bon, je crois que Madeleine voulait rajouter quelque chose.
Je voulais juste rajouter qu'on est allé visiter la ferme d'insectes en Hollande. Eux, ils nous avaient dit que pour produire une tonne d'insectes, il leur suffisait de 20 mètres carrés.
Ah oui.
Donc en termes de surface agricole,
c'est aussi très intéressant. Merci beaucoup de votre appel, Anthony. Et on vous donne toutes les coordonnées, évidemment, toutes les coordonnées de d'Entomojo hors antenne. Alors, c'est Tell the Truth qui nous dit sur Europe 1, avec le hashtag Europe 1, que les véganes et ceux qui veulent qu'on respecte les animaux pensent de la consommation d'insectes. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'on peut comparer consommation d'insectes et consommation d'animaux? Je ne sais pas.
Nous, on vend des croquettes et on a vraiment vu deux profils différents. Il y a des personnes qui sont véganes elles-mêmes, qui savent très bien que leur chien ne peut pas être végan. Et donc, du coup, si on leur offre une alternative qui n'est pas de la viande et où il n'y a pas un animal qui a été tué dans un abattoir, ça les attire beaucoup. Et à l'inverse, il y a des véganes qui, pour eux, un insecte est un être vivant et ils ne font pas vraiment de différence.
On a aussi Jean-Marc Corti qui nous fait une petite blague et qui nous dit à l'idée de devoir manger des insectes, j'ai le cafard évidemment. Bon voilà, c'était facile, mais on achète Jean-Marc. Merci de votre message. Paul, est-ce que c'est une solution vraiment crédible? Parce que c'est ça hein, finalement qui se pose comme question. Est-ce que c'est crédible pour nourrir toute la planète? Allez, très rapidement.
Ça a un peu été dit avec l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture qui a remis un rapport sur la FAO qui considère donc la farine d'insectes comme une nourriture bon marché et écologique. Sur le plan nutritionnel, on peut dire que les insectes sont très très riches en protéines puisqu'ils possèdent à poids égal 3 fois plus que les bœufs, par exemple. Donc on se rend compte que c'est quand même une belle solution. Leur élevage est aussi beaucoup plus écologique que du bétail classique, on en a un peu parlé, puisqu'il produit 100 fois moins de gaz à effet de serre et utilise 50 fois moins d'eau. C'est quand même une solution qu'on peut noter. Et quand on sait qu'aujourd'hui, plus de 2 milliards d'êtres humains consomment des insectes régulièrement, on peut penser que ça peut s'étendre assez rapidement.
D'un mot, Charlotte.
Oui, vous avez tout à fait raison, Paul. Mais alors, je rajoute en plus que les insectes contiennent beaucoup de protéines animales, ça on le sait, mais pas que.
Pas que, oui, oui.
Et c'est là où c'est très intéressant, nutritionnellement parlant, parce qu'ils contiennent beaucoup de vitamine B12. Et c'est ce pourquoi certains végétariens sont en carence aujourd'hui, où c'est la vitamine qui manque dans les galettes végétales classiques d'aujourd'hui. C'est très riche en fer, en zinc et en oméga 3 et 6. Donc, il n'y a pas que de la protéine animale, c'est vraiment un ingrédient qui est très complet, nutritionnellement parlant.
On va suivre en tout cas votre développement à tous les trois. Merci d'être venus nous parler de cette alimentation de demain aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h39.
Europe 1.
Il a commencé à 14 ans chez Le Nôtre. Aujourd'hui, son nom est connu dans le monde entier. Ses pâtisseries aussi. Pierre Hermé et l'entreprise qui va bien. Merci.
La France bouge, le meilleur de la France bouge se poursuit jusqu'à 14h sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et maintenant l'entreprise qui va bien.
Et cette entreprise porte tout simplement le nom de son créateur. Bonjour Pierre Hermé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. La pâtisserie, chez vous, on peut le dire, c'est d'abord une histoire de famille.
En fait, je suis issu d'une 4 générations de boulangers-pâtissiers alsaciens. Et très tôt, j'ai su que je voulais faire ce métier. À 9 ans, je savais que je voulais faire ce métier. Et j'ai toujours le même plaisir à faire ce métier depuis très longtemps.
Ouais, à 9 ans, vous le savez, et à 14 ans, vous commencez à travailler chez Le Nôtre comme apprenti.
J'ai eu cette chance de faire mon apprentissage chez Le Nôtre, où j'ai appris tous les fondements, à la fois ce que c'est que la qualité, l'organisation qu'il faut pour produire de la qualité, le savoir-faire, les techniques. Tout ce qui a posé les bases de mon savoir-faire de pâtissier, qui, bien sûr, j'ai fait évoluer avec au fil du temps, mais ça reste mon socle de connaissances.
Alors, c'est vrai que des pâtissiers, des créateurs, la France, on a beaucoup. Comment est-ce qu'on devient le roi de la pâtisserie moderne? Ce que vous êtes, en tout cas, c'est comme ça que vous a surnommé le Guardian.
Alors, je ne sais pas comment on le devient. En tout cas, il faut être soi-même, il faut poursuivre ce qu'on ressent, ce qu'on a envie de partager avec ceux qui viennent acheter les gâteaux et d'essayer de transmettre des émotions et donner du plaisir à ceux qui viennent manger les gâteaux, qui nous font l'honneur de venir acheter les gâteaux.
Quel est le tout premier produit, tout premier gâteau que vous avez imaginé et que vous avez réussi à réaliser tel que vous l'aviez à l'esprit?
Alors, c'était un gâteau au citron vert, un miroir au citron vert, parce que c'était dans les années 80, où on faisait beaucoup des gâteaux miroirs, donc avec un biscuit et dessus une mousse au citron vert. C'était un meringue noix de coco, biscuit imbibé au rhum blanc et mousse au citron vert. C'est un gâteau très simple, mais bon, rafraîchissant. Et puis après, je pense qu'une des premières créations était le paradis, avec biscuit imbibé à la rose, bavaroise à la rose et framboise, qui en fait est l'ancêtre de l'Ispahan. Qui est rose, litchi, framboise et qui est une des associations de goût fétiche de la maison.
Alors en 97, vous lancez véritablement l'entreprise. Très vite, 3 ans plus tard, elle se développe vraiment, hein, à Paris évidemment, à Tokyo. Aujourd'hui, vous êtes présent dans 12 pays, c'est ça, 50 boutiques.
La maison, j'ai créé la maison Pierre Hamet avec Charles Nati. Et on l'anime et dirige encore aujourd'hui. Et on est présent dans une douzaine de pays, avec principalement le Japon, où on a après la France, c'est la plus forte activité est au Japon.
Il y a 600 personnes qui travaillent avec vous aujourd'hui.
Un peu plus. Même, ouais.
Vous avez des nouveaux lieux qui ont ouvert, d'autres en préparation.
Alors, nouveaux lieux, c'est Beau Passage, où il y a un salon de thé avec une boutique de pâtisserie. Un autre qui est le café Pierre Hamet, qui est en face de la boutique historique de la marque rue Bonaparte. Et puis une dernière ouverture à Paris, à la gare de Lyon.
Vous avez aussi en tête des tas de projets. On en a un qui s'est réalisé, qui est juste à côté de moi. C'est Orfeo, la première bûche expédiable partout en France. C'était important justement d'entrer dans le quotidien des Français avec cet aspect de digitalisation.
En fait, depuis des années, on fait chaque année une bûche un peu extraordinaire avec des collaborations avec des artistes et tout ça. Et là, je me suis dit, bon, je crois que j'ai fait le tour de cette démarche. J'ai envie d'essayer de permettre à un maximum de gens de pouvoir se procurer cette bûche, parce que tout le monde me dit mais en province on peut pas avoir les gâteaux. Alors je me suis dit, tiens, c'est intéressant de faire ça. Et il se trouve qu'en même temps l'entreprise Chronofresh se développe et nous permet aussi d'assurer la livraison de ces produits.
Vous êtes toujours à la recherche, hein, de nouveautés, de créations. Est-ce qu'il y a des choses qui vous donnent encore envie de créer? Est-ce que vous avez par exemple envie d'aider les jeunes? Je crois que vous avez très envie, en tout cas c'est ce que vous dites. Vous dites, je rêve de monter une école de formation pour les métiers de la vente.
Oui, c'est vrai, les métiers de la vente, mais aussi les métiers de la pâtisserie. En fait, ce qui m'intéresse, c'est la transmission, c'est former les gens, transmettre le savoir-faire.
Être un passeur.
Oui, je crois que, en fait, c'est, dans nos métiers de l'artisanat, c'est un vrai devoir de transmettre et de former. Et donc, j'ai formé beaucoup de pâtissiers, mais aussi dans la maison, on a formé beaucoup de vendeurs, vendeuses, et les gens à différents métiers. Et pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est quelque chose sur lequel j'ai l'intention de mettre l'accent dans les prochaines années.
Et la suite, c'est peut-être le bar à glace, ça aussi, ça vous tient à cœur?
Ah oui, vous avez bien... oui, oui. Alors, le bar à glace, c'est quelque chose qui est pour moi une fantaisie que j'aimerais bien réaliser en ayant vraiment quelque chose d'un peu fou, où on peut, à partir de différentes saveurs de glace, de sorbet et d'autres ingrédients, de composer sa coupe glacée, son dessert glacé. Enfin, c'est une idée que je suis en train d'essayer de peaufiner pour lui permettre de prendre forme.
On saura s'en reparler. Merci Pierre Hamet.
Ça fait partie de mes objectifs.
D'être venu aujourd'hui sur Europe 1, c'est l'entreprise qui va bien. Merci.
Il est 13h50. Europe 1.
Vous cherchez peut-être une idée originale, pourquoi ne pas faire une bonne action? C'est la solution imaginée par Gandhi, plutôt que de faire un cadeau classique.
Et on retrouve Raphaël Duchemin et Paul Lassen aussi pour la dernière partie de La France Bouge, consacrée comme chaque jour, un petit peu avant 14h sur Europe 1, à une solution et même aujourd'hui à une bonne action.
Ah oui, pourquoi ne pas faire une bonne action pour le monde au lieu de faire un cadeau pour les anniversaires ou pour les fêtes de fin d'année? C'est la solution proposée par Gandhi. Vous savez, quand on ne sait pas trop quoi offrir, Paul Lassen Gandhi, c'est une cagnotte, mais une cagnotte dédiée à la générosité.
Oui, absolument. C'est une plateforme qui permet de créer une cagnotte au profit d'une association pour tenter de rendre le monde plus beau. C'est en quelque sorte le premier site d'e-commerce solidaire. En gros, vous choisissez une association qui agit dans différents domaines, l'environnement, la solidarité, l'enfance ou la santé, et vous décidez de leur dédier une cagnotte et de la partager avec leur entourage. Très pratique quand on a envie de faire un cadeau original et qui a du sens.
Bonjour Sophia Darny.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes en charge du marketing chez Gandhi, présente depuis le début de l'aventure, hein, qui a quelques mois, deux mois je crois à peine.
Oui, depuis octobre dernier, donc j'ai la chance d'avoir assisté au lancement de Gandhi.
Alors Gandhi, déjà dites-nous, ça veut dire quoi? Parce que ça s'écrit G-A-N-D-E-E.
Tout à fait, ça vient de Gandhi, bien sûr, un personnage mémorable et...
C'est un clin d'œil donc au personnage.
Tout à fait,
avec une écriture un peu différente.
Et aussi un clin d'œil à la générosité, bien entendu.
Paul ?
En quoi c'est différent d'une cagnotte classique qu'on utilise pour les anniversaires ou autres ?
Eh bien, c'est différent sur de nombreuses choses par rapport au fait que Gandhi utilise par le biais des cagnottes en ligne, de faire de chaque événement comme les autres cagnottes peuvent le faire. Mais Gandhi propose également ce service pour les entreprises, ce qui est un élément très différenciant et très novateur. Donc, c'est l'occasion d'être généreux.
Ça veut dire que ça ne marche pas de la même manière. Une cagnotte classique, on met des sous dessus pour effectivement les anniversaires. Là c'est le même principe. Quelle est la différence? Vous dites ça peut être différenciant, mais...
C'est tout à fait, c'est le même principe, sauf que les cagnottes classiques s'adressent davantage aux particuliers plutôt qu'aux entreprises.
D'accord.
Gandhi, en revanche, propose justement aux entreprises l'occasion, pas que ce soit les fêtes de fin d'année, des challenges sportifs, ce genre d'événements, d'être généreux au profit d'associations qui sont présélectionnées par Gandhi et labellisées de confiance. Et Gandhi... accompagne également pour les entreprises qui le souhaitent un mécénat sur l'année, donc la possibilité pour les entreprises de mettre en valeur leurs responsabilités sociales et environnementales en entreprise et de mettre en valeur leurs valeurs et leur mécénat.
Ça veut dire qu'une entreprise peut choisir finalement d'accompagner un projet de générosité, c'est ça, et d'associer son entreprise.
Tout à fait, c'est l'offre d'outsourcing du mécénat. Avec laquelle Gandhi accompagne les entreprises, que ce soit pour la communication, de tout ce qui est de l'ordre du conseil par rapport à cette démarche et tout ce qui s'ensuit pour diffuser cet élan de générosité au sein de l'entreprise.
Est-ce qu'il y a une limite de montant? Est-ce qu'on peut mettre autant qu'on veut, que les entreprises peuvent investir autant qu'elles veulent dans ces associations?
Tout à fait. Elles peuvent investir autant qu'elles veulent. Il est à savoir que les entreprises, enfin 100% de l'argent reversé aux associations est donné à l'association. Et que l'offre qui est avec les entreprises s'ajoute en plus du don. Le don est aucunement touché par rapport à l'entreprise.
Qu'est-ce que notre coach pense de cette initiative Gandhi, qui est toute jeune, hein, deux mois, c'est récent.
Moi,
c'est
je pensais effectivement à la conjoncture, la baisse du pouvoir d'achat, donc je me disais une énième cagnotte en ligne dans un marché très concurrentiel. Finalement, le positionnement qui se tourne vers l'entreprise, c'est peut-être un positionnement peut-être effectivement intéressant dans ce contexte où les salariés ont de plus en plus de mal à reverser. On l'a vu avec les Télétons. Mm-hmm. Donc, je ne sais pas comment vous est venue cette idée de vous orienter plutôt vers une cible d'entreprise.
Tout simplement parce que on a vu après une étude que les petites et les moyennes entreprises, les PME, les TPE, avaient pas forcément les ressources humaines et le temps pour pouvoir exercer ce genre de pratique au sein d'une entreprise. Donc c'est pour ça qu'on propose aux entreprises l'offre du outsourcing du mécénat, qui permet beaucoup de choses, de fédérer tous les salariés au sein d'une cause commune, d'élever enlever cette fierté de travailler pour une entreprise plutôt qu'une autre et de valoriser et d'humaniser la marque de l'entreprise.
En tout cas, ça démarre, ça s'appelle Gandhi, G-A-N-D-2-E. Merci d'être venu nous la présenter. Merci Paul d'avoir été avec nous. À demain.